الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. Bonsoir, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je tiens à remercier l'association qui m'a invité à cette soirée. Et c'est toujours une joie que de retrouver des amis, des frères, des sœurs dans une région qui est lointaine. Et de voir un petit peu cette communauté, comment elle vit, comment elle évolue. Alors, on m'a demandé de traiter un sujet qui est d'une importance capitale, à savoir la citoyenneté et le vivre ensemble. Et bien entendu, cette rencontre a été préparée et prévue depuis fort longtemps, bien avant les actes terroristes qui ont ébranlé notre pays il y a quelques jours. Toujours est-il que l'association a insisté pour qu'on continue de parler de ce sujet-là, parce qu'il n'y a pas de raison. Ce n'est pas parce que une poignée de personnes a voulu ébranler le vivre ensemble que les musulmans ont construit depuis des décennies qu'on ne doit plus parler de ce sujet. Plus que jamais, nous devons parler de ce sujet, plus que jamais, nous devons insister sur ce sujet, et plus que jamais, nous devons être des partenaires et des acteurs très engagés dans la construction du bon vivre ensemble dans ce pays, qui est le nôtre. Nous devons savoir que nous sommes en train de vivre dans une époque où plus que jamais le brassage ethnique, culturel, religieux et politique dans le monde a connu un essor et une extension sans précédent. En plus de la généralisation de ce brassage par les moyens actuels de communication, on assiste aujourd'hui, et notamment en Europe, à une réalité, une nouvelle réalité qui catalyse ce phénomène. Il s'agit en fait de la coexistence dans un même contexte spatio-temporel de plusieurs communautés avec des convictions, des cultures et des histoires aussi différentes que multiples, afin de contribuer à un commun avenir social, politique et économique. Pourquoi ça s'est arrêté? Alors, je ne sais pas si ma voix va porter jusqu'au bout, mais donc je disais que l'histoire de l'humanité a pris désormais la forme d'un entonnoir, la forme d'un entonnoir qui nous oblige à vivre tous ensemble dans notre pluralité et à converger vers une même issue. La mondialisation a fait passer en quelques décennies l'humanité d'un provincialisme qui l'a compartimenté en sociétés distinctes en une globalisation qui transforme notre Terre en un village planétaire, pour reprendre une expression qui est très connue. Face à ce changement radical et rapide, les adeptes de plusieurs cultures, de plusieurs religions, de plusieurs traditions et de plusieurs conceptions doctrinales se sont trouvés brusquement en promiscuité quotidienne avec des personnes qui, à première vue, ne leur ressemblaient pas, et ils devaient avec eux construire un avenir commun dans un espace commun. Et face à cette situation, trois scénarios s'ouvrait alors à ces nouveaux concitoyens. Soit le scénario du conflit, soit le scénario du syncrétisme, soit le scénario du dialogue. Alors prenons le cas du premier scénario, le scénario du conflit. Il s'agit en fait du scénario selon lequel chacun essaiera d'assurer sa prédominance sur les autres en les asservissant ou en les éliminant afin d'imposer à toute la société les lois, les coutumes, la culture et la religion de ce qu'il considère être son propre groupe. Cette entreprise sera forcément accompagnée d'une peur fantasmatique de se voir dominée par les autres, ce qui alimentera inexorablement des xénophobies, des racismes ou des animosités d'autant plus puissantes qu'elles sont inavouées. La société deviendrait alors le lieu d'affrontements violents et s'y multiplierait tueries, voire des génocides. Et le choix de ce genre de scénario conduirait fatalement au risque de ce qu'on appelle le choc des civilisations, ou de ce qu'un chercheur qui s'appelle Max Weber appelait la guerre des dieux, ou on peut dire la guerre au nom de son dieu. Et quelque part, c'est ce que malheureusement nous sommes en train de vivre avec une frange de notre population qui est marginale certes, qui n'est pas nombreuse certes, mais qui fait énormément de mal. Le deuxième scénario, c'est le scénario du syncrétisme. Ce scénario suppose que les différentes composantes de la société créent ce qui deviendrait une nouvelle tradition qui fusionne les multiples apports des uns et des autres, abolissant ainsi leurs différences. Ainsi verrait le jour une nouvelle culture, une nouvelle religion unique qui reprendrait les valeurs, les rites, voire les doctrines de chaque composante en les additionnant les unes au-dessus des autres et en faisant une synthèse et en les fondant dans ce qu'on appelle le syncrétisme. Cette position, elle existe et elle a été esquissée par un philosophe américain qui s'appelle Emerson, qui est mort en 1882, parce que c'est un problème qu'a connu les États-Unis depuis fort longtemps, avant même l'Europe. Et il a été aussi esquissé et repris par un historien anglais qui s'appelle Toynbee, qui est mort en 1975. Et elle est encore, cette vision, elle est encore défendue actuellement par des universitaires américains qui organisent de temps à autre des offices où ils lient successivement des passages des évangiles, des préceptes bouddhistes, des versets coraniques et d'autres traditions religieuses, voire non religieuses. Et bien qu'on peut s'y attendre, il en résulte un mélange très artificiel qui relève plus du spectacle que d'une réalité traductible à une grande échelle. Donc ce scénario-là ne peut avoir lieu parce qu'aucune personne n'accepterait de se dévêtir de ses traditions, de se dévêtir de sa religion, de sa doctrine, afin d'adopter une nouvelle doctrine artificielle. Ensuite vient le scénario du sécularisme, du sécularisation, ou ce qu'on appelle nous la laïcité. Il s'agit en fait du scénario de la scène que nous occupons actuellement en Europe et plus particulièrement en France, avec quelques nuances entre les laïcités des différents pays européens. La laïcité en France n'est pas la même laïcité en Angleterre, n'est pas la même laïcité dans les pays nordiques. Il y a des petites nuances. On est dans un grand écart quelque part, on peut aller d'un extrême vers un autre. Mais toujours est-il que la philosophie de ce scénario consiste à établir un ordre, des lois, des règles qui s'appliquent à tous, sans distinction, sans tenir compte des diverses appartenances culturelles et religieuses, que chacun, s'il le désire, cultive ses particularités, ses différences et ses spécificités en privé, dans son domicile, ou dans des lieux spéciaux, mais pas sur la place publique. On vise, bien entendu, par ce scénario, à disposer à la société des citoyens qui, lorsqu'ils sont dans leur vie commune, font abstraction de leur identité propre, de leur origine ou de leur passé, de leurs caractéristiques culturelles et de leurs convictions religieuses. Et ce troisième scénario, comme je l'ai dit, qu'on appelle la laïcité ici en France, ne manque pas de mérite. Ça représente, bien entendu, la seule alternative, la meilleure alternative par rapport à ce que je viens de dire jusqu'à maintenant. Il laisse apparaître une paix sociale, mais malheureusement, il se heurte quand même à deux limites majeures. La première limite, c'est que les règles communes mises en place exprime généralement les valeurs d'une composante de la société ou de celles qui réussissent à mettre en place des lobbyings assez influents pour mettre en exergue leurs propres convictions dans l'espace commun. Voilà le premier risque. Le premier risque, c'est qu'on peut avoir et vivre une certaine dérive avec la formation de certains lobbyings. Et d'ailleurs, on commence à le voir lorsque des hommes politiques ou des femmes politiques penchent vers telle communauté ou vers telle autre communauté pour gagner ses voix, afin de mettre en place beaucoup plus en exergue, mettre en place beaucoup plus, avec beaucoup plus de visibilité, leurs principes ou bien leurs convictions. Ça, c'est un risque. Et ce modèle donne donc une fausse apparence d'universalité, d'impartialité ou de neutralité, mais au fond, il peut émerger donc un communautarisme ou bien une xénophobie déclarée ou non déclarée selon qu'on soit du côté des plus forts ou du côté des plus faibles. Ceux qui sont du côté le plus fort, ils peuvent déclarer leur xénophobie d'une manière directe ou indirecte, mais en tout état de cause, c'est une xénophobie qui va être exprimée. Et d'ailleurs, on commence à remarquer dans notre société des langues qui se délient, des phrases qu'on n'aurait pas entendues il y a des décennies, mais qu'on entend plus facilement dans la langue et dans la parole de certains hommes ou femmes politiques. Et ça, c'est un risque justement que nous sommes en train de vivre au jour d'aujourd'hui. Ou bien cette xénophobie peut exister, ce rejet peut exister chez d'autres personnes qui, parce qu'ils sont du côté des plus faibles, ils n'oseront pas les exprimer. Donc, ils vont vivre une certaine frustration, mais lorsque l'occasion leur sera donnée, ils risquent de faire très mal. Et je crois que ce que nous avons vécu il y a quelques jours, et même il y a quelques mois, on est un exemple. C'est que on est face à des personnes qui vivent un problème dans leur intérieur. Bien entendu, on ne peut en aucun cas justifier les actes barbares qu'ils ont commis. On ne peut en aucun cas accepter de près ou de loin, sous aucun principe, ce qu'ils ont fait. Mais il faut toujours analyser pourquoi ces gens-là sont arrivés jusqu'à arriver à se faire exploser, à se tuer et à tuer leurs compatriotes. Et c'est là où on a besoin justement d'un vrai recul, d'une vraie analyse. Et au lieu de se pencher sur la résolution des syndromes, il faut revenir à la source du mal et essayer de traiter ce mal à sa source. La deuxième limite de ce scénario de sécularisation, c'est que ce scénario néglige trop la force et la valeur des enracinements culturels et spirituels. On a parfois, on a ce risque-là, de trop vouloir mettre à l'écart et de trop vouloir mettre à la marge la culture de certaines personnes, leur vision. Donc on veut étouffer quelque part cette vision-là et qu'elle ne puisse pas avoir une visibilité, qu'elle soit morphologique ou idéologique. Et on finit en fait par avoir des citoyens désengagés parce qu'ils vivent des frustrations ou bien désencombrés. Comme l'écrit un philosophe canadien qui s'appelle Charles Taylor, c'est-à-dire des citoyens qui sont vidés de leurs particularités distinctives, déculturés et donc mutilés. Et c'est quelque part ce qu'on commence à ressentir. Et cette phrase-là, c'est parce que cette conférence, je l'avais donnée il y a 3 ans, donc on n'avait pas encore vécu, on n'avait pas encore vu cette vague d'attentats terroristes que nous sommes en train de vivre. Et je disais déjà à l'époque, c'est quelque part ce qu'on commence à ressentir chez les nouvelles générations qui ont vécu à une époque où ce modèle s'est bien ancré dans la société, détruisant l'identité qui était celle de leur ascendant. Le pire à craindre, et malheureusement, ils sont en train de le vivre. Le pire à craindre, c'est que ces générations finissent par inventer des identités hybrides. Des identités hybrides. Il va se prévaloir de l'islam, alors que c'est pas l'islam qui est connu par les musulmans. C'est un islam hybride. C'est pas l'islam qui a été connu par leurs propres parents, par leurs propres ascendants. Ils vont fabriquer une nouvelle, face à ces frustrations, ils vont fabriquer une nouvelle identité se rapportant à ce qu'ils croient être leur propre identité. Et ils vont se revendiquer donc une identité hybride qui se revendique de celle de leurs composantes respectives, mais qui sont dans la réalité des choses catalysées, soit par une envie hégémonique, et ça on le trouve aussi bien chez certains chrétiens qui sont tombés aussi dans l'extrémisme, lorsqu'au nom du Christ, au nom de la croix, ils veulent terrasser les musulmans ou autres, et on entend aussi des slogans de ce genre-là, on en voit les mosquées profanées, les femmes agressées, ainsi de suite. Donc il y a cette frange-là qui existe malheureusement, donc il y a cet extrémisme aussi qui existe. Donc là, ils sont catalysés par une envie hégémonique, soit à l'inverse par un sentiment de victimisation. Et c'est ce qu'on voit chez l'autre extrême, quelqu'un qui se sent victime et qui justement a tort bien entendu, qui se sent victime et donc il va passer à l'acte quelque part pour venger ce qu'il croit avoir subi de la société. Les prémices de cette dérive, et ça je le disais il y a 3 ans, les prémices de cette dérive commencent d'ailleurs à être observées dans notre société, et le comble c'est que leurs auteurs, parfois, ne sont pas uniquement les citoyens lambda, mais de plus en plus ceux qui sont censés être les gardiens et les garants de la paix sociale. Et j'entends par là certains acteurs politiques ou certains acteurs des médias. Vouloir faire abstraction des cultures, des religions, ou les reléguer dans le privé par force, finira par générer des réactions épidermiques qui risquent de déporter les différentes composantes de la société vers le premier scénario, malheureusement, à savoir le scénario de l'affrontement et du conflit. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et au-delà des symboliques, au-delà des slogans symboliques, je dis qu'il faut promouvoir le vivre ensemble. Et promouvoir le vivre ensemble, c'est promouvoir la paix et promouvoir les valeurs de la paix. Néanmoins, il existe de nombreuses définitions de ce qu'est la paix. Mais l'une de celles ayant eu le plus d'impact consiste à distinguer la paix positive et la paix négative. Une distinction opérée par un certain Galtung, un érudit norvégien et chercheur dans ce domaine. Alors il dit que la paix négative, c'est l'absence de guerre ou de conflits violents entre les États ou à l'intérieur d'un même État. Dès lors qu'on ne voit pas un conflit violent, il n'y a pas prise d'armes à l'intérieur d'un État, donc on parle d'une paix. Mais pour lui, il considère ceci comme une paix négative. Et c'est ce que nous vivions jusqu'alors. Mais par paix positive, on entend non seulement l'absence de guerre ou de conflits violents, mais aussi un état d'équité, de justice et de développement. De là, on peut d'emblée considérer que si en France, par exemple, on vit un état de paix négatif jusqu'à maintenant, on est loin de vivre un état de paix positif. Ceci est le cas de la grande majorité des pays dans le monde. Ce qui corrobore cette déduction, c'est la notion même de violence, qui, selon un concept, consiste à recourir à la force dans le but d'obtenir quelque chose contre la volonté d'un individu ou d'un groupe. Là aussi, on peut distinguer la violence directe ou physique de la violence indirecte ou structurelle, qui réside dans la pauvreté, l'exploitation, l'injustice sociale, l'absence de démocratie ou une démocratie déguisée, l'intolérance, le racisme, la xénophobie, etc. Là aussi, on est face à un autre type de violence, mais qui ne s'exprime pas par la force. Ça peut être une violence institutionnelle. Et par conséquent, on peut dire qu'il y a paix lorsqu'il n'y a ni violence directe, ni violence indirecte. Nombreux sont ceux qui ont la conviction que l'être humain est naturellement violent et que par conséquent, on ne peut empêcher les guerres, les conflits et plus généralement les actes de violence dans nos sociétés et notre vie quotidienne. Penser cela revient à dire que la paix reste un espoir inaccessible et devient une notion utopique ou idéaliste. Mais selon la conception des musulmans, puisque là je vois une grande majorité ici dans la salle qui est musulmane, et selon la conception d'ailleurs, je crois que de plusieurs religions monothéistes, l'homme n'est pas naturellement violent. L'homme n'est pas naturellement violent parce que sinon, la présence de la religion n'aurait pas de sens. La présence de la moralité religieuse n'aurait pas de sens. La présence des valeurs humaines n'auront pas de sens. L'homme est certes doté dès sa naissance de quelques semences instinctives qui peuvent engendrer certaines formes de violence nécessaires pour garantir sa survie sur Terre. On le voit chez un enfant, on entendait tout à l'heure des enfants pleurer à l'arrière. C'est une forme de violence sonore, quelque part, pour obliger la mère à se lever, à lui donner à le lait. Donc, c'est quelque chose qui est instinctif. Ce germe-là existe chez nous dès notre naissance, pour garantir, bien entendu, notre survie. Néanmoins, l'homme reste responsable devant Dieu et devant les hommes de la gestion de ses instincts, de sorte qu'il ne provoque pas directement ou indirectement la rupture de la paix dans sa société. Donc, c'est sur cette responsabilité que nous sommes interpellés tous. La responsabilité de bien développer les germes instinctifs que nous avons afin de garantir une paix sociale, afin de garantir le vivre ensemble, afin d'échafauder un avenir commun malgré nos différences. Et justement, le scénario de la laïcité, c'est quoi? La laïcité, c'est le droit à la différence, et non pas la différence des droits. La laïcité, c'est une garantie pour chacun de nous de pouvoir être convaincu par telle ou telle vision, telle ou telle culture, telle ou telle doctrine. C'est le fait de ne pas frustrer la personne face à sa liberté personnelle. Mais lorsqu'il s'agit de la liberté des autres, c'est là où on doit mettre le frein. Lorsqu'il s'agit d'occuper un même espace, c'est là où on doit avoir le bon sens, malgré nos divergences, malgré nos différences, de construire un avenir commun. Parler du vivre ensemble ne signifie pas assimiler l'autre à ma culture, déshabiller l'autre de ses convictions. Il faut qu'il soit comme moi, qu'il réfléchisse comme moi, qu'il mange comme moi. Dès lors qu'on commence à mettre ces restrictions, on met en place des frustrations. Et dès lors qu'on met en place des frustrations, on met en place du radicalisme, de l'extrémisme d'abord, qui peut se développer au radicalisme et qui va nous faire vivre malheureusement le premier scénario dont on a parlé. Alors que faire face à ces dangers et face à ces défiances, me diriez-vous? Alors permettez-moi de citer quelques pistes qui, bien que difficiles à concrétiser sur une grande échelle, sont facilement accessibles aux citoyens éclairés qui sont épris de justice et de paix. Notre slogan dans la promotion de la paix doit être « Plutôt qu'insulter les ténèbres de la violence, vaut mieux allumer une bougie de paix. » Et c'est avec quelques petites bonnes initiatives et actions qu'on peut faire vivre la paix aujourd'hui. Parmi ces initiatives, la première conviction qu'on doit avoir, c'est une initiative, mais au niveau intellectuel quelque part, c'est qu'il faut tout d'abord comprendre que vouloir faire des êtres humains des clones qui partagent les mêmes convictions et les mêmes visions est une entreprise vouée à l'échec, ne pouvant que renforcer les sentiments et les actes de violence. La deuxième chose, c'est qu'il faut être persuadé que l'identité d'un groupe n'a pas besoin de se nourrir de l'adversité. Et là, je pèse bien mes mots. C'est que parfois, même chez certains musulmans, pour manifester son identité, il faut qu'il s'engage dans l'adversité avec l'autre. Et il faut passer outre cette vision-là. On doit développer notre identité en harmonie avec l'identité de l'autre, en harmonie avec les convictions de l'autre, en harmonie avec les divergences qu'on a vis-à-vis de l'autre. Il n'y a pas le moi et l'autre, moi et l'autre. On n'est pas censé se mettre d'accord sur tous les détails de la vie. On n'est pas censé avoir la même pensée. On n'est pas censé la voir. C'est dans la différence qu'il faut savoir cultiver le dialogue, dans la différence. Et dans la différence qu'il faut savoir développer le respect. Donc je disais, il faut être persuadé que l'identité d'un groupe n'a pas besoin de se nourrir de l'adversité, de la compétition ou de l'agressivité face à un autre groupe. La pluralité culturelle et cultuelle dans la société est une richesse qui n'est malheureusement pas encore exploitée à sa juste valeur. Troisième point, c'est qu'il faut œuvrer à bannir les inégalités sociales qui marginalisent une partie de la population, générant ainsi des frustrations qui se transforment en violence. La paix ne peut pas se construire sans justice. La paix ne peut pas se construire sans justice. Et il faut dire que chacun doit prendre sa responsabilité à ce niveau-là. Le drame que nous avons vécu il y a quelques jours, ces causes sont multiples, comme j'ai dit tout à l'heure. Et chacun de nous doit prendre sa responsabilité depuis le poste qu'il occupe ou depuis la place qu'il occupe dans la société ou depuis le groupe auquel il appartient dans la société. Les musulmans doivent prendre leurs responsabilités devant ce qui s'est passé. Les médias doivent prendre leurs responsabilités devant ce qui s'est passé. Les politiques doivent prendre leurs responsabilités devant ce qui s'est passé. L'éducation nationale doit prendre sa responsabilité devant ce qui s'est passé. Il faut apporter une réponse globale à un problème qui a émergé suite à de multiples causes qui ne sont pas, détrompez-vous, qui ne sont pas religieuses. La religion n'est qu'une carapace, n'est qu'une instrumentalisation qui a été utilisée par certains gourous pour envoyer au chaudron des jeunes désemparés, des jeunes déséquilibrés qui n'ont absolument rien à voir avec la religion, qui ne comprennent pas ce qu'est déjà la religion. Quatrième point, c'est qu'il faut savoir condamner fermement et sans équivoque tout acte de violence qui vise à imposer une idéologie ou une vision biaisée de l'autre, aussi bien du côté des musulmans que des non-musulmans. Nous devons tous condamner fermement et sans équivoque donc certains actes de violence, quels qu'ils soient. Le cinquième point, c'est qu'il faut créer des espaces de circonstances, d'écoute sans jugement, pour dépasser les faux préjugés et les fantasmes de diabolisation. On ne se connaît pas assez, et l'être humain a pour nature d'être l'ennemi de ce qu'il ignore. Et au jour d'aujourd'hui, nous ignorons énormément les uns sur les autres. L'islam est ignoré chez beaucoup de nos concitoyens, soit parce que nous, en tant que musulmans, on n'a pas fait l'effort de l'expliquer, de le montrer, et là, c'est un autre problème. Il y avait des handicaps parfois linguistiques, parfois les parents qui sont venus, les premiers migrants, ne voyaient pas l'intérêt de le faire parce que pour eux, ils étaient de passage. Donc, ils vivaient leur islam dans leur coin, et pour eux, ils allaient continuer leur chemin à revenir au bled, et donc, il n'y a pas lieu d'expliquer aux autres. Donc, puisque c'était pas dans leur... ils n'avaient jamais prévu de rester dans ce pays-là, de développer des familles dans ce pays-là, de développer une communauté dans ce pays-là, au sein de la communauté nationale. Et c'est pour cela qu'il y a un retard à ce niveau-là. Et c'est pour cela que les musulmans doivent accomplir justement leur devoir à ce niveau-là. Et il faut que la société aussi ouvre ce genre d'espace, comme celui que nous partageons au jour d'aujourd'hui, pour que l'on puisse parler à toute la société et descendre sur le terrain, ne pas rester seulement au niveau institutionnel, mais descendre sur le terrain, partager donc les paroles, partager justement les connaissances avec Monsieur Tout-le-Monde. Avec Monsieur Tout-le-Monde. Ça peut être dans le cadre de certaines occasions, comme la fête du voisinage. Ça peut. Et là, bien entendu, il faut innover dans ce domaine-là. Il faut innover dans ce domaine. Il y a énormément de choses à faire là-dessus. Il faut savoir aussi condamner. Il faut savoir aussi condamner fermement et sans équivoque les xénophobies qui, au nom de la liberté d'expression, se permettent de fustiger des citoyens pour leur simple appartenance ethnique ou religieuse. Il y a quelques jours, une prof devant ses élèves comparait les femmes, par exemple, qui portent le foulard à un pingouin. Une république qui se respecte ne peut accepter cette dérive. Et heureusement, justement, les responsables de l'éducation nationale ont su, justement, intervenir pour remettre les choses à l'ordre. Mais au nom de la liberté d'expression, on ne peut pas laisser passer ce genre d'expression ou ce genre d'attitude. Sixièmement, dans une ère de mondialisation, il nous faudra déployer beaucoup d'imagination pour réinventer les règles du vivre ensemble, en commençant par l'art de la conversation et du dialogue. Et je crois qu'il y a énormément à faire dans ce domaine-là, l'art de dialoguer. Le problème, c'est que parfois, lorsqu'on se met avec celui avec qui on ne partage pas beaucoup de choses, on est là pour essayer de le convaincre. On part déjà avec un objectif, je suis devant lui pour le convaincre. Et lui aussi, il est là pour nous convaincre. Donc, on engage et on entame un dialogue de sourds. Et ce n'est pas le but. Le dialogue, c'est le fait d'exposer sa conviction, d'être à l'écoute de la conviction de l'autre pour la découvrir, et ensuite, ensemble, déterminer les points communs, les points de convergence qui nous permettront ensemble de construire notre avenir commun, qui nous permettront ensemble de s'épanouir les uns et les autres, et non pas une partie aux dépens de l'autre partie. Et ceci doit passer d'abord par l'école. Dernièrement, lorsqu'on a fait appel, certains hommes politiques ont fait appel justement à ce que des acteurs religieux puissent intervenir de temps à autre à l'école. On a crié au scandale. Voilà les principes de la laïcité qui vont être effondrés, la séparation de l'Église et l'État qui va être effondrée, alors que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'établir justement des espaces de dialogue avec les enfants. Il faut commencer depuis l'enfance. Il ne faut plus que les enfants, justement, voient l'autre comme un ennemi potentiel. Il ne faut plus que les enfants prennent comme argent comptant ce qu'ils vont entendre de leurs parents, qu'ils soient de telle communauté ou de telle autre, qu'ils prennent pour argent comptant ce qu'on va leur présenter dans les médias. Il faut qu'ils entendent la vérité des acteurs même de chaque catégorie, de chaque composante de la société. Et il faut leur donner la possibilité de s'exprimer pour éradiquer justement toute xénophobie qui risque de grandir avec le développement de ses enfants. Donc je disais que le dialogue et l'échange sont la meilleure façon de mieux se connaître, pour mieux se reconnaître et construire un avenir meilleur. Et d'un dernier point, et je crois que la liste peut être très longue, et j'attends qu'il y ait des interventions peut-être dans le public pour enrichir ces propositions, il faut construire aussi les futurs artisans de la paix à travers l'enseignement et l'éducation dispensée aux nouvelles générations. Ceci, comme j'ai dit, je viens de dire, doit passer par l'école, la synagogue, l'église et la mosquée. Ces bâtis, ces temples sont des temples et doivent être des temples de paix dans la société. Et il faut qu'ils jouent pleinement leur rôle en ce sens. On ne doit pas les mettre à l'écart. Parce que la France a vécu un épisode dramatique avec la religion, donc mettre à l'écart toutes les religions. Au jour d'aujourd'hui, les religions ont compris leur rôle, ont compris les limites à ne pas dépasser dans la société. Et à partir de là, il faut leur redonner la parole, non pas dans un sens prosélyte, mais dans le sens où ils peuvent être eux-mêmes des acteurs de la construction de ce vivre ensemble, des acteurs de dialogue, des acteurs de l'échange, des acteurs d'apaisement, parce que quand même, ces religions-là portent des valeurs qui sont universelles et partagées par le monde entier. Et c'est pour cela que leur implication dans cette entreprise doit être pleine, sans aucune limite. Mais malheureusement, dans la vision qui est la nôtre au jour d'aujourd'hui ici en France, on a une allergie épidermique dès lors qu'on entend religieux, on entend temple, ou on entend mosquée, ou on entend synagogue. Et je crois qu'il faut qu'on dépasse ces peurs et ces craintes-là parce qu'on a trop cultivé les peurs et c'est pour cela que nous sommes en train de vivre le drame d'aujourd'hui. Donc, il est temps d'enlever ces peurs-là, il est temps d'enlever ces xénophobies-là et d'essayer de construire un vrai vivre ensemble. Et je termine cette parole par un verset coranique pour vous montrer aussi un de ces sens que donne la religion au vivre ensemble. Donc, dans le Coran, il est dit « À chacun de vous, nous avons tracé un itinéraire. » En fait, c'est Dieu qui parle. « À chacun de vous, nous avons tracé un itinéraire et établi une règle de conduite qui lui est propre. Et si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule et même communauté. Mais il a voulu vous éprouver pour voir l'usage que chaque communauté ferait de ce qu'il lui a donné. Rivalisez donc d'efforts dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Fastabiqul khayrat. Rivalisez donc d'efforts dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Car c'est vers Dieu que vous ferez retour et il vous éclairera alors sur l'origine de vos différences. C'est un verset, c'est le verset 48 de Surat La Table Servie, de Surat Al-Ma'ida. Et c'est avec cette parole-là que je termine cette intervention en espérant que j'ai pu transmettre quelques messages et en attendant aussi de vous quelques messages et quelques remarques, inshallah, qui enrichiront cette intervention. Barakallahu fikoum, merci pour votre attention.
Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Tout était clair.
Ou ils ne sont pas d'accord.
Ou ils ne sont pas d'accord. C'est ça. Qui n'est pas d'accord? Donc, je vais en profiter aussi au passage pour préciser que c'est l'AIDC qui a organisé cet événement-là et qui a invité le docteur Amin Ejdi. Et remercier aussi la municipalité pour avoir mis à disposition ces locaux qui peuvent vous accueillir dans de bonnes conditions. Et toutes les personnes qui ont participé à l'organisation en préparant la salle, les chaises, le thé et tout ce que vous avez pu profiter cet après-midi depuis 15 heures. Donc, toujours pas de questions? Oui.
Je voulais juste vous demander, est-ce que la laïcité, elle est indiquée dans un texte de loi.
Est-ce qu'elle est
indiquée dans un texte de loi?
Vous parlez de la Constitution française?
Je parle de la laïcité. Le terme laïcité, est-ce qu'il est écrit dans un des textes de loi, dans le Code civil ou dans le Code pénal? Est-ce qu'il y a le terme laïcité?
Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous répondre.
Ben moi, je vais vous répondre non.
Voilà.
Il n'y a pas le terme de la laïcité. En fin de compte, je pense que la laïcité, c'est un concept qui a été créé. La seule chose au niveau légal qui est reliée à la laïcité, c'est en mars 2009 par rapport à des signes ostentatoires. Mmh. Donc, déjà, c'est contradictoire parce qu'un signe, c'est forcément ostentatoire. Déjà. Donc voilà, et moi je voulais dire que je suis tout à fait d'accord sur ce que vous venez de dire par rapport à la laïcité, sauf qu'on lui donne trop d'importance à ce terme. Il y a énormément d'inégalités vis-à-vis de la laïcité, déjà ils ne sont même pas d'accord au niveau de la définition. Et ensuite, ce que moi je souhaite au niveau du vivre ensemble, c'est qu'on s'arrête plutôt sur les termes de la République, c'est-à-dire liberté, égalité et fraternité, et que la laïcité soit mise un petit peu de côté, parce que déjà, il faudrait qu'ils se mettent d'accord sur qu'est-ce que c'est véritablement la laïcité. Donc, on nous rabâche tout le temps la laïcité, puis on met n'importe quoi derrière, sauf que ce qui est le plus important, et ce qui est dans les textes de loi, et ce qui est dans la Constitution des droits de l'homme, c'est bien l'égalité, fraternité et liberté. Voilà.
Je vous remercie pour cette remarque et vous prêchez un convaincu. Justement, si on parle maintenant de laïcité, nous, en tant que tel, c'est parce que justement, c'est un terme qui est beaucoup repris ces derniers temps par des personnes et un terme qui est en, je dirais, ou bien un principe qui est en accordéon, où chacun lui attribue une définition qui lui plaît. Et moi, je dis que le sens même et le fond de ce qu'est la laïcité, c'est ce que tout le monde défend, bien entendu. C'est exactement, c'est-à-dire, le terme laïcité vit le même problème que vit le Coran aujourd'hui. Nous avons un texte, qui est un texte de référent chez tous les musulmans, mais qui peut supporter plusieurs lectures. Et chacun va revendiquer sa manière de lire ce texte-là comme étant la manière exacte ou bien le message exact du livre. Et c'est le même problème que vit le terme laïcité ou le concept laïcité au jour d'aujourd'hui. Et c'est pour cela que certains, donc on parle aussi de l'extrémisme de certains laïcars, ce qu'on appelle aussi les laïcars, parce que quelque part, ils vident ce terme-là du sens qui lui a été donné au moment où il l'a pris comme concept et comme principe fondamental de la République. Et c'est justement, c'est autour de il ne faut pas avoir peur de parler de la laïcité, parce que plutôt que de laisser ce terme-là être exploité et dévoyé par les extrémistes de, je vais pas les appeler de la laïcité, du syncrétisme, qui cherche le syncrétisme ou le conflit, plutôt que de se l'approprier, nous en tant que citoyens, tous ensemble, et de montrer à tous les Français et à toutes les institutions, voilà ce qu'on veut entendre, nous, en tant que citoyens, de cette laïcité-là. Lui donner la bonne définition, telle qu'il a été, bien entendu, conçue au départ. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce principe-là, ce concept-là, il est venu suite à un grand conflit qu'il y avait entre une religion, en l'occurrence le catholicisme, et justement la société d'une manière générale. Et donc on a dépassé maintenant ce conflit-là. On est passé par un épisode qui était sanguinaire, où il y avait énormément de dégâts. Donc à partir de là, la Révolution française est venue, il a remis certaines choses, il a remis les pendules, si j'ose dire, à l'heure, il a donné les libertés. Et il faut dire que la laïcité, elle est venue pour, à l'époque, pour protéger qui, à la base? C'est pour protéger les protestants, qui étaient relayés au deuxième degré dans la société à l'époque, et pour donner aussi une garantie de sécurité aussi aux juifs, aux minorités quelque part. Et au jour d'aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de la minorité musulmane, on voit que ce terme-là est utilisé quelque part pour limiter la liberté de la communauté musulmane, par certaines personnes, j'entends bien entendu. Et malheureusement, c'est cette dérive que nous sommes en train de vivre, et c'est cette dérive même qui est en train de bafouer les principes de vivre ensemble, alors que le concept de laïcité a été mis en place pour garantir le vivre ensemble. Et on doit refuser justement ces lectures dévoyées et crier haut et fort que la laïcité n'a jamais été ce que vous dites. Les principes, les slogans de la République, bien entendu, nous sommes tous d'accord autour, sauf qu'il y a un petit bémol. C'est que lorsqu'on parle de la liberté et de l'égalité, ce sont deux concepts qu'on peut garantir par l'effet de la loi, par le coût de la loi. Mais lorsqu'on parle de fraternité, est-ce qu'on peut forcer les gens d'être frères, de se considérer frères? On ne peut pas par le coût de la loi. On ne peut pas par le coût de la loi. Donc je peux avoir dans mon cœur une xénophobie ambiante vis-à-vis de mon voisin, mais je ne l'exprime pas. Ou je l'exprime d'une certaine manière qui ne me permet pas de tomber sous le coup de la loi. Mais quelque part, il y a un malaise, parce que mes opinions, voilà, ils sont exclusifs. Ils excluent les autres. Et c'est pour cela que la fraternité, qui est un concept important, qui est un slogan important, doit prendre son sens dans la société actuelle. Et ce n'est que les citoyens qui doivent développer justement ce sens-là. La loi ne peut pas le garantir. C'est les citoyens qui doivent justement le développer et le nourrir. Et je crois que c'est dans cette initiative que nous devons tous nous inscrire.
ديال الانترنت داكشي اللي كنشوفو كيفاش انا غادي نفهم داكشي اللي في الانترنت وانا انسان ما كنعرفش
لكن يصب حتى سؤال
Si vous avez encore des questions, donc là, on vous laisse un peu profiter du thé. Peut-être que vous avez la bouche un peu sèche, ça vous empêche de poser les questions. En général, la plus dure, c'est la première question. Donc ça a été fait. Comme le ridicule ne tue pas, poser les questions. Il n'y a que des mauvaises réponses.
Docteur, moi la question que je voudrais poser au docteur, c'est comment, moi en tant qu'une personne ou un étudiant qui rentre par Internet, je vois des questions et des réponses et je commence à prendre ces questions ou ces réponses-là dans un sens qui n'est pas le bon. Donc, docteur, je demande comment vous conseillez les jeunes à faire gaffe et à faire attention à tout ce qu'on voit par Internet et tout ce qu'on lit. Est-ce que c'est le bon sens de la lecture ou est-ce que c'est pas le bon? Comme vous avez dit tout à l'heure, il y a des versets coraniques que certaines personnes peuvent lire le verset coranique, mais ils ne connaissent pas exactement le sens du verset. C'est comment vous conseillez les jeunes dans ce sens-là, je vous en prie.
Alors, ce que je disais tout à l'heure, donc ça fait allusion à ce que je peux répondre à cette question-là. Donc je disais qu'il fallait créer des espaces d'échange et d'écoute. Et je parlais aussi d'éducation nationale. Parce que si on ne donne pas assez de réponses à nos enfants, aux différents questionnements qu'ils peuvent avoir, si on n'apporte pas des solutions aux frustrations qu'ils peuvent ressentir, ils vont se réfugier justement vers un autre moyen de communication avec lequel ils ont la facilité de dialoguer ou d'écouter. Et donc, c'est là qu'ils vont aller à la chasse de l'information ou chercher des explications sur Internet. Parce qu'on ne leur a pas donné, justement, la possibilité de canaliser le dialogue avec eux dans un bon sens. On ne leur a pas donné un espace dans lequel ils peuvent s'exprimer librement, sans être jugés, à l'école même. Et c'est pour ça, moi, je ne vois pas où est le mal lorsque un prêtre ou lorsqu'un rabbin ou lorsqu'un imam vient dans une classe, à l'intérieur de l'école de la République, en présence d'un directeur, du proviseur, en présence du professeur, et de réserver une séance pour répondre aux questionnements des enfants. On peut rétablir énormément de vérités, enlever énormément de préjugés. Nous, on a mené une expérience à Nancy. On a commencé à organiser ce qu'on a appelé les portes ouvertes de la mosquée. Et on a choisi une date symbolique qui est la date de la journée du patrimoine qui se déroule la troisième semaine de septembre chaque année. Et donc, on a été vraiment agréablement surpris de l'interaction qu'on a pu avoir avec des citoyens qui ne sont pas musulmans. Et donc, on a organisé cette manifestation des portes ouvertes avec une exposition. Chaque fois, on choisissait une thématique donnée à ces portes ouvertes. Première fois, c'était sur l'architecture musulmane en Europe, parce qu'il ne faut pas oublier que l'islam est une civilisation qui a abrité en Europe pendant 10 siècles quand même. Et là, cette partie de l'histoire, il ne faut pas l'oublier, et qu'il a eu un apport important à la civilisation actuelle. Lorsqu'on parle de civilisation judéo-chrétienne, c'est injuste, parce que l'islam a apporté à la civilisation actuelle, et les spécialistes vous le diront en la matière, notamment les historiens de cette époque, du Moyen-Âge. Et la deuxième année, on a fait une exposition sur l'apport justement des musulmans à la médecine moderne. Et on a été visité donc à l'intérieur de la mosquée par des médecins, par des chirurgiens, par des infirmières, des sages-femmes, et qui ont été étonnés, qui étaient vraiment étonnés de voir que cette richesse que les musulmans ont pu apporter à la médecine moderne. C'est une partie de l'histoire qui est occultée dans la conscience nationale, malheureusement. Et ce sont des choses qu'on peut enseigner à l'école, ce qui permettrait à des enfants qui appartiennent à la religion, par exemple musulmane, de ne pas se sentir frustrés ou à l'écart de cette société. Ils ressentiront enfin que leur civilisation à laquelle ils appartiennent avait mis une pierre dans l'édifice de la modernité actuelle. Et donc, ils vivront plus cette frustration qui risque justement de les faire tomber dans l'extrémisme ou d'aller chercher une consolation à l'intérieur d'Internet. Et au jour d'aujourd'hui, lorsque vous ouvrez Internet, lorsque vous cherchez une information sur l'islam, forcément, soit vous allez tomber sur un site Internet de l'extrême droite qui combattent les musulmans, qui combattent la présence musulmane en France, soit vous allez tomber malheureusement sur des extrémistes religieux musulmans qui dévoient les textes et qui donnent des réponses qui répondent plus aux frustrations et non à la réalité de ce qu'est l'islam. Et c'est pour cela que ces jeunes-là ont été endoctrinés, ils ont été instrumentalisés et ils pensaient avoir découvert la félicité, la vérité, alors qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Et tout à l'heure, j'ai une conférence à la mosquée où je peux me permettre un peu plus de liberté de parler de textes religieux et tout pour démontrer ce que je suis en train de faire, ce que je ne peux pas faire ici puisque la salle, ne s'apprête pas à ceci, mais d'une manière générale, ce que je veux dire, c'est que le Coran lui-même met en garde contre les lectures dévoyées. Le Coran lui-même dit, ces paroles-là ne doivent pas être appréhendées par n'importe qui. Ces paroles-là ne doivent pas être interprétées par n'importe qui. Dans le Coran, il y a des textes qui concernent Monsieur Tout le Monde. Monsieur Tout le Monde peut puiser de ces textes-là, peut apprendre ce qu'est la moralité, peut apprendre ce qu'est ses obligations personnelles par rapport à Dieu, par rapport à la société. Mais lorsqu'il s'agit de sujets sensibles, ou du sujet desquels on va extraire des décrets ou des décisions qui vont impacter la société, impacter le groupe, ce n'est pas Monsieur Tout le Monde qui interprète. Ce n'est pas n'importe qui parle. Là, bien entendu, on a des référents connus et reconnus, qui sont versés dans le savoir, qui ont derrière eux des années, des décennies de savoir, une connaissance énorme, des érudits qui peuvent oser justement parler de certains décrets. Alors que lorsqu'au jour d'aujourd'hui, on voit quelqu'un qui était complètement à la marge de la société, qui était hier un vagabond, qui était hier un dealer, qui consommait la drogue à peine hier, et du jour au lendemain, il commence à donner des leçons à la communauté musulmane, il y a lieu de se poser des questions. Il y a deux lieux de se poser des questions. Lorsqu'on a des personnes anonymes dont on ne connaît ni le nom, ni l'issue, ni d'où est-ce qu'ils viennent, et qui commencent à parler de l'islam, à parler du djihad, il y a lieu de se poser des questions. Les musulmans, ils ont leurs référents, ils les connaissent très bien. Lorsqu'on étudie la biographie des grands savants de l'islam, il est né à telle date, ses parents qui sont, ses aïeux qui ils sont, comment il a appris, de qui il a appris, comment il a... Et c'est ça qui nous permet d'avoir confiance en ces personnes-là pour les écouter. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui apparaît du jour au lendemain, il se proclame calife, il se proclame imam, et on va commencer à l'écouter, c'est très grave. C'est très grave. On ne peut pas donner, une arme à un néophyte et donner certains textes religieux, entre, les mettre entre les mains de jeunes qui étaient en panne intellectuelle, dans une panne intellectuelle, qui ont raté l'ascenseur social, c'est une gravité manifeste. Et c'est pour cela que nous sommes en train de souffrir au jour d'aujourd'hui des conséquences de ce qui vient de se passer. Et c'est pour cela que nous devons présenter des alternatives pour récupérer ces jeunes-là ou ceux qui risquent de suivre leurs pas. Des alternatives intellectuelles. On doit combattre des idéologies dévoyées avec des idéologies justes, avec des idéologies correctes, avec des idéologies éclairées. Mais encore faut-il créer ces espaces d'échange qui peuvent, comme j'ai dit, se faire à la mosquée, dans des salles sociales comme celle d'aujourd'hui, à l'école, et on ne doit pas avoir peur à ce niveau-là. On ne doit pas avoir peur à ce niveau-là. Parce qu'on a trop mis de limites, et c'est ce qui fait justement que c'est dans l'obscurité que les gens vont aller chercher et puiser leurs informations.
Bonsoir. J'aimerais connaître votre avis sur le manque d'implication justement citoyen des musulmans sur les autres thématiques telles que l'environnement, etc. Voilà. On s'implique souvent en réaction aux agressions qu'on peut avoir vis-à-vis de nos principes religieux, mais le manque d'investissement de notre communauté sur les thématiques qui touchent les citoyens, j'aimerais comprendre et entendre votre avis sur cette question.
Tu peux me ramener, s'il te plaît. Voilà, c'est parti.
Alors, l'engagement, justement, et l'implication des musulmans doit s'opérer à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Et on est très, très loin encore. Il y a du chemin à faire. Le premier engagement, d'abord, c'est un engagement citoyen. C'est un engagement citoyen. Nous faisons partie intégrante de cette société. Et nous devons se sentir des citoyens à part entière, et non entièrement à part. Et c'est pour cela que nous devons nous engager dans le processus. Donc, électoral, par exemple. Lorsque j'entends au jour d'aujourd'hui certains autoproclamés imams, par exemple, qui disent que le fait de participer aux élections, c'est un acte d'impiété, c'est un acte qui témoigne de l'apostasie même des personnes. Là, il y a lieu de se poser des questions. C'est très grave. C'est très grave d'entendre ce genre de paroles dans une république et de la bouche de quelqu'un qui se dit musulman. C'est très grave. Et parfois, ramener des textes qui n'ont absolument rien à voir avec l'objet et la thématique de cette parole-là et les coller, les colporter et les ramener pour dire, ben voilà, je me justifie avec ces textes-là. Donc là, c'est très grave. Donc d'abord, le musulman doit s'engager dans la vie citoyenne. Je dois choisir aussi ceux qui me représentent. C'est un droit, c'est un droit. Je ne peux pas laisser quelqu'un d'autre choisir celui qui me gouverne demain. Je ne peux pas laisser des personnes monter dans l'ascenseur électoral au nom du rejet, au nom du racisme. On ne peut pas accepter ça. Et le fait que je ne m'engage pas, chaque fois que je retiens ma voix, alors je retiens ma voix, c'est que je donne la force à l'autre, justement, qui constitue un lobby pour, justement, me nuire plus tard. Et justement, c'est ce que je dis. Les musulmans, leur premier défi d'abord dans la société actuelle, c'est l'engagement citoyen. On doit voter, on doit participer dans la vie, dans la vie politique, être dans les partis politiques, porter notre voix, donner notre avis sans aucune frustration et avec fierté. On n'a pas à s'excuser d'être musulman, comme on n'a pas à s'excuser d'être athée, comme on n'a pas à s'excuser d'être juif. Donc déjà, le musulman doit être fier d'appartenir à sa religion. Mais encore faut-il qu'il la connaisse pour qu'il en soit fier, justement. Qu'il connaisse son historique et ce qu'elle a apporté à la modernité actuelle. C'est cette religion même qui, concernant l'affaire de l'environnement, la question de l'environnement, puisqu'on est dans une époque où des jours, les jours aussi du COP21, il faut savoir que la question de la protection de l'environnement, c'est quelque chose qui est doctrinal chez les musulmans. Elle fait partie de la doctrine islamique. Parce que pour nous, la nature, c'est une création divine. Et qui dit création divine, c'est une création qui mérite respect, Quelqu'un qui respecte son Dieu respecte sa création. Respecte sa création. Donc c'est quelque chose qui est ancré dans ma foi. Et le prophète n'a cessé de donner des symboliques à ce niveau-là. Lorsque le prophète a vu un de ses compagnons en train d'accomplir ses ablutions au bord d'une rivière, il lui a dit, sois économe dans l'utilisation de l'eau. Sois économe dans l'utilisation de l'eau. Il y a 14 siècles. Et l'homme de répondre, mais je suis devant un fleuve. Comment je vais économiser l'eau du fleuve? C'est pas possible. Il lui a dit non. Même si tu utilises l'eau du fleuve, sois économe dans l'utilisation de l'eau. Le prophète lui-même a dit, si l'un de vous, c'est-à-dire si l'un de vous vit la fin du monde, l'apocalypse, et qu'il a entre ses mains un petit arbuste, une petite plante, et qu'il sait pertinemment qu'il va mourir dans la seconde qui suit, qu'il ne perde pas vie avant de planter cet arbuste, avant de planter cette plante. Donc là, ça devient un principe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je fais ces gestes-là, je ne les fais pas pour que j'en profite moi-même, mais pour que les générations futures puissent en profiter. Et regardez cette parole du prophète qui est encore plus importante et plus éloquente. Lorsqu'il dit que la foi en islam, c'est quelques soixantaines ou 70 branches. C'est-à-dire que la foi, c'est pas une parole seulement, une attestation. Non, c'est beaucoup de choses. Il y a plusieurs, c'est beaucoup de ramifications. Et il a dit, la plus haute branche, c'est le fait de dire, il n'y a de Dieu que Allah. Ça, c'est la plus haute branche. Et il a dit, et la plus petite branche, c'est d'écarter le mal de la route. Si tu trouves dans la route un mal qui peut nuire à quelqu'un d'autre, tu dois l'écarter de la route. Il a dit, ça fait partie de la foi. Et ensuite, il a dit, et la pudeur est une branche de la foi. Donc, regardez, il a parlé d'une proclamation verbale, qui est, j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Allah, une proclamation verbale. Ensuite, il a parlé d'un geste, ça marche plus, d'un geste qui nous paraît anodin, trouver une peau de banane par terre et l'écarter, trouver et non pas en jeter, l'écarter, donc, même si c'est pas moi qui l'ai jeté, trouver une pierre dans le chemin, l'écarter. Donc là, il a parlé d'un geste. Ne pas sous-estimer ce geste-là. Il fait partie de la foi. Et ensuite, il a parlé d'une attitude, d'une moralité qui est la pudeur. Et la pudeur, c'est pas quelque chose qu'on perçoit avec l'œil. C'est quelque chose qui est intrinsèque à la personne, qui a un rapport direct avec le cœur. Donc il a cité trois catégories de branches. Une proclamation verbale, un geste physique et un état d'être interne. Il a dit, c'est cela la foi. C'est cela la foi. Et je crois que cette parole résume justement ce que doit être l'engagement de musulmans en tant que musulmans dans les différents domaines de la vie, y compris la question de la protection de l'environnement, à juste titre.
Il y a un monsieur. Merci à la question de l'abbé de...
Attends, je suis déjà là.
Gérard, tu vis?
Oui.
Je suis Gérard Périmatien, je suis le prêtre de la paroisse ici. Voilà, et je suis très heureux d'être ici avec vous. Hein. Et je voudrais, bien sûr, il y aurait beaucoup de choses, mais je voudrais insister sur l'idée qui a été lancée, des coups de parole, comme on dit. Pouvoir se parler, c'est fondamental, ensemble, différent. Et par exemple, sur les grandes thématiques citoyennes, pourquoi pas, hein, on est tous des citoyens à part entière. Il n'y a pas des citoyens à 50%, 60%, 70%. On l'est tous à 100%. Donc, créer des espaces de parole. J'en ai déjà parlé un petit peu avec M. Barthi, qui est là-bas. Voilà. Ça, c'est des choses, à mon avis, qu'il faudrait pouvoir mettre en place. J'en fais un peu l'expérience en passant dans le collège compagne, dans toutes les classes. Ça crée un temps de dialogue pendant l'heure de vie de classe, les 3-4 heures. Ben, on parle de tout avec les élèves et moi, et on apprend à se connaître, tout simplement. Et puis on parle de temps en temps, pas si souvent que ça, de religion. On parle du foot, parce que j'aime le foot et aussi. On parle de tel aspect de la vie, de toute la vie. C'est, à mon sens, c'est très important aussi ça. Parce que souvent, certains médias nous cantonnent dans des postures religieuses que eux voient. Mais on a une vie complète de citoyens. Vous voyez ? En tout cas, je suis très heureux d'être ici et puis voilà, en gros, je m'associe à ce que vous avez dit de M. Nesbitt, tout à fait. Hein ? Merci beaucoup.
Merci. Merci.
En tout cas, je vous remercie moi de même que vous soyez déjà parmi nous. Ça, c'est une bonne initiative de prendre le temps de venir partager un moment comme celui-là avec des concitoyens. Ça, c'est très important, je pense. Et tout à l'heure, madame parlait justement de la question des lois, les lois de la République. Dans les lois de la République, nous avons aussi la possibilité d'avoir des aumôniers dans l'éducation nationale. Ça, c'est quelque chose qui est statutaire. Mais malheureusement, on n'en profite pas. On n'en profite pas. La loi nous donne ce droit-là. Mais au jour d'aujourd'hui, cette loi est restée quelque part non traduisible sur le terrain. Et ça, c'est malheureux à dire. Donc, quelque part, nous avons dans notre République des principes qui sont capables de porter les valeurs dont je viens de parler au jour d'aujourd'hui. Mais ces valeurs, mais malheureusement, ces principes-là, ou bien ces permissions-là, ces lois-là, sont en panne quelque part. Et il y a lieu de, justement de se poser la question, pourquoi ils sont en panne? Pourquoi ils sont en panne? Pourquoi on ne voit pas beaucoup assez d'aumôniers dans les écoles, qui bien entendu, ils sont éclairés, ils savent quelles sont leurs limites, qui sont là pour partager avec les enfants. Et je crois que c'est par là qu'il faut commencer. Il ne faut pas attendre que les jeunes atteignent 18 ans, 20 ans, pour qu'ils puissent eux-mêmes chercher par eux-mêmes justement à s'informer, à s'éduquer. Nous avons ce devoir-là depuis la tendre enfance. Et c'est pour cela qu'il faut justement mettre barrage à toutes ces pensées radicales de part et d'autre, justement, depuis l'enfance. Et je crois aussi que le dialogue interreligieux, c'est un dialogue qui doit prendre son sens dans la société. Et moi, je crois que ce dialogue-là est nécessaire aujourd'hui. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Le Concile Vatican II, donc, l'a bien précisé. Il y a eu un appel fort dans ce sens-là. Et où le pape, à l'époque, donc, a insisté, justement, sur le dialogue. Et notamment, disait-il, avec nos frères musulmans. Parce qu'il y a beaucoup de choses à partager avec eux. Et je crois qu'il faut donner du sens à ce genre d'initiative, à ce genre de texte. Nous, en tout cas, dans la région où je suis, nous avons justement, on est très bien engagé dans ce sens-là, et même avec le concours de l'État. Parce que beaucoup pensent que l'État n'a absolument rien à voir avec les religions. Oui, l'État ne promeut pas les religions, n'encourage pas les religions. Mais l'État a le devoir de dialoguer avec les religions. D'ailleurs, lorsqu'on parle du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire parmi les fonctions du ministère de l'Intérieur, ce n'est pas seulement la sécurité. Il y a aussi, c'est le ministère aussi des cultes. Ministère de l'Intérieur et des cultes. Ça veut dire quoi, ministère des cultes? Ça veut dire quand même qu'il a le devoir d'avoir un lien avec les cultes, d'avoir un partage avec les cultes, de réunir aussi les cultes entre eux. Et je crois qu'il y a maintenant des préfets qui ont pris leur courage à deux mains et qui ont encouragé, ils ont joué un rôle facilitateur pour la rencontre des différents cultes. Et au-delà des cultes d'ailleurs, nous, il y a quelques mois, on a organisé une rencontre à Metz, même si c'est une région concordataire, mais on l'a fait même ailleurs, où justement toutes les religions étaient invitées à la table, et c'était à l'intérieur des salons de la mairie de Metz. Il y avait des laïcards dans la salle qui ont très mal vu justement cette initiative et qui ont même critiqué le préfet, le maire sur cette initiative. Mais alors que dans la loi, il n'y a rien qui interdit ce genre d'initiative. Au contraire, il y a tout ce qui va dans le sens de l'encouragement de ce genre d'initiative, parce que c'est comme ça qu'on consolide le vivre ensemble et qu'on donne une vraie visibilité au vivre ensemble. On ne peut pas se contenter de quelques groupes de dialogue entre nous. Je le dis souvent à mes amis prêtres, on se voit entre nous, on se connaît assez entre nous, on rigole. Parfois même on parle de nos différences, mais sans polémique bien entendu. On dit, voilà, on n'est pas d'accord avec vous sur cela. Mais parce qu'on a su établir des liens d'amitié, on peut se permettre de parler de nos divergences. Alors qu'au départ, on essayait de les mettre de côté. Le temps, justement, de se connaître assez, d'avoir confiance les uns en les autres. Donc je crois que c'est un chemin que nous devons tous prendre, que nous devons tous encourager. Et c'est pour cela qu'on a besoin de partenaires, qu'on a besoin de cadres, chez les musulmans notamment, et on manque malheureusement de cadres au jour d'aujourd'hui, surtout au sein de la jeunesse, afin justement de construire notre avenir et de mettre barrage à ces tentatives qui ont qu'un seul objectif, c'est celui de provoquer la dissension au sein de la société. Il faut comprendre aujourd'hui que les gourous de Daesh, pour ne pas les citer, leur objectif principal, c'est d'encourager les musulmans de se considérer des citoyens européens et de convaincre les non-musulmans que l'islam est incompatible avec vos principes. Parce que vous les entendez ici et là qui disent il faut accomplir le hijra, il faut quitter la France, il faut quitter l'Europe, il faut accomplir le hijra. Ben, parce que eux, et même il y a certains qui appellent justement à ce qu'on appelle le hijra, alors que même ils sont ici. Les gens leur disent mais faites vos bagages rapidement. Vous voulez partir, partez et laissez les autres construire leur avenir et l'avenir de leurs enfants. Mais comme donc ils ont fini justement certains parmi eux à partir, donc ils veulent le faire par force. Et pour qu'ils arrivent à leur objectif, donc il faut qu'ils créent la peur de part et d'autre. D'où justement l'entreprise terroriste dans laquelle ils se sont engagés. Et nous devons leur montrer qu'on est contre justement cette stratégie, on est contre leur programme, et on ne peut le montrer que lorsqu'on montrera notre unité, que lorsqu'on montrera que par-dessus nos divergences, nous avons une unité nationale, une fraternité nationale à laquelle nous tenons tous. Malgré nos divergences. Alors, il y a une question qui dit quelle serait la meilleure façon de faire face au contexte actuel. N'y a-t-il pas, selon vous, un manquement de notre communauté au niveau de l'éducation? Si, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut... vous voyez maintenant, le gouvernement, il a pris quelques initiatives sécuritaires par rapport à la situation. On a besoin de ces initiatives, elles sont nécessaires. Mais est-ce qu'elles sont suffisantes? Pas du tout. Elles ne sont pas suffisantes. Il faut agir à différents niveaux, à différents niveaux. Et chacun, comme j'ai dit tout à l'heure, a sa part de responsabilité. Les musulmans ont leur part de responsabilité. Les parents ont leur part de responsabilité. L'école a sa part de responsabilité. L'école, les médias, tout le monde a une part de responsabilité. Et chacun, justement, doit œuvrer pour que la brèche qui s'est fissurée de son côté soit colmatée rapidement. Et donc là, nous avons énormément à faire, nous aussi. Parce que quand même, nos imams, par exemple, la mosquée peut être un rempart, même s'il y a un endoctrinement, c'est-à-dire qui a été opéré sur certains jeunes, nous, en tant que musulmans, nous devons crier fort et haut et promouvoir justement les valeurs de l'islam telles qu'il est pour que ces enfants puissent les entendre. Ces jeunes, par exemple, vont aller puiser leurs informations sur Internet. Ben, nous aussi, il faut qu'on occupe la toile. Il faut qu'on occupe Internet par des sites éclairés, par des sites bien construits, par des films bien construits. C'est pas par des vidéos ridicules comme on l'a vu ces jours-ci de certains imams qui sont complètement à côté, ils sont hors contexte, et qui colportent des paroles que le prophète n'a jamais dit. On ne peut pas accepter ça en tant que musulman. Mais parce qu'il y a un vide, ce sont ces gens-là, c'est la mauvaise herbe malheureusement qui pousse. Donc il faut occuper ce vide-là. Et là, nous devons être renvoyés à notre responsabilité en tant qu'imam, en tant que responsable de mosquée, en tant que... Voilà. Donc là, nous avons une grande responsabilité, surtout au niveau de l'éducation. Et c'est pour cela qu'il faut tout investir auprès de notre jeunesse et pas sous-estimer le travail que l'on fait devant un jeune de 8 ans, de 7 ans. C'est là que le travail doit commencer et c'est là où les premiers remparts contre le radicalisme commencent à être construits. Alors, une deuxième question, jusqu'où, et ça c'est une question qui me tient à cœur, jusqu'où l'engagement des femmes peut-il aller? Quelles sont les limites? Alors, ils mettent entre parenthèses médiatiques. Moi, je dis, le plus grand engagement qui doit être opéré aujourd'hui dans notre communauté, c'est l'engagement des femmes et c'est l'investissement des femmes. Ça, c'est très important. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on veut fustiger l'islam, on le fustige à travers la femme. Parce qu'elle a justement cette visibilité. Elle porte le voile, elle a une visibilité, donc c'est elle qui est attaquée la première. On n'attaque pas au jour d'aujourd'hui un homme qui porte la barbe. Mais on attaque plus facilement une femme qui porte son foulard. Et on la taxe d'être soumise. On la taxe d'être écrasée par son mari, par son père, par son frère, alors que c'est pas la réalité. Mais il faut donner justement la parole à la femme. Ça doit être elle qui doit se défendre et montrer ce qu'elles sont et montrer ce que sont leurs convictions et pourquoi elle a porté le voile, pourquoi elle est musulmane, pourquoi elle est ceci, pourquoi elle est cela. Je vous dis, lorsque je vous ai parlé tout à l'heure des portes ouvertes qu'on a organisées dans notre mosquée, c'était les femmes qui étaient au premier plan. C'était elles qui discutaient, c'était elles qui expliquaient. Et on l'a fait exprès. Et tous les visiteurs étaient étonnés de dire, on découvre, chez vous, il y a des femmes instruites, comme si, donc pour vous dire la conscience un peu générale, pour eux, c'est des femmes incultes qui ne savent rien, qui sont des soumises. Et c'est pour cela, justement, qu'il faut remonter la pente et montrer la réalité du terrain. Ce sont ces femmes-là, justement, qui sont les mamans de demain et qui vont être un vrai rempart pour que leurs enfants ne glissent pas entre leurs mains. Parce que c'est elles qui payent les premières. Ce sont elles les premières qui payent. Regardez ce qu'on voit à la télé. Lorsqu'on voit des mamans qui pleurent des larmes de sang parce que leurs enfants leur sont échappés. Ils ont été échappés de leurs mains. Donc la femme doit s'investir et on doit lui faciliter la tâche pour s'investir. Alors on me dit les limites. Les limites, j'ai pas à mettre de limites. Ce qui est convenable et convenable, c'est connu. Ce qui n'est pas convenable n'est pas convenable et c'est connu. Donc, nous devons encourager nos femmes dans nos mosquées à s'investir, à travailler, à dialoguer, à parler dans la société et dans le respect, bien entendu, de leurs convictions qui sont les leurs. Et il n'y a pas de mal à cela. Et on a vu à l'époque, lorsque vous lisez l'histoire de l'islam, parmi les plus grands savants, il y avait des femmes. En l'occurrence, l'épouse du prophète Aïcha. L'épouse Aïcha, donc du prophète, Aïcha radiallahu anha, les savants ont recueilli un livre, un volume, comme ça, qu'ils ont intitulé la jurisprudence selon Aïcha radiallahu anha. C'était une jurisconsulte, une faqiha, et on a réuni un livre sur elle, là-dessus. L'imam al-Bukhari, que vous connaissez tous, donc parmi ses maîtres, il y avait une femme, et vous trouvez à plusieurs reprises, il a dit, j'ai rapporté sur Malika, qu'elle a rapporté sur ceci, cela. Donc, on n'a jamais eu, nous les musulmans, une honte par rapport aux femmes, loin de là. Omar ibn Khattab, qui était quelqu'un de très jaloux et tout, il a mis à la tête du marché. Bon, il y avait un marché, et vous savez, le marché, c'est la plaque tournante économique à l'époque. Celle qui s'occupait de gérer le marché, les conflits économiques du marché de Médine, c'était une femme. À l'époque de Omar ibn Khattab. Lors des batailles qu'avaient engagées les musulmans, Rufaïda, le prophète a nommé une femme, Rufaïda, la première femme médecin de la médecine de guerre. On parle aujourd'hui de la médecine de guerre. La première femme qui s'est investie dans la médecine de guerre, c'était une musulmane qui s'appelait Rufaïda, ainsi que sa sœur. Et le prophète lui a établi une grande tente et il leur a dit, donc si quelqu'un est blessé, vous ramenez nos blessés chez Rufaïda pour qu'elle les soigne. Ça, je vous parle de certaines choses qui ont existé à l'époque du prophète. Et aujourd'hui, on veut être plus prophète que le prophète et dévoyer les textes et donner un autre sens et une autre direction à notre religion. C'est là où réside justement notre problème. Et c'est pour cela que je dis que les musulmans aussi doivent prendre leur responsabilité à ce niveau-là, dans le respect des exigences de notre religion, que vous connaissez tous.
Allah, ce sera la dernière question.
Merci beaucoup, docteur, de votre intervention. Le sujet est très intéressant. Je commence par dire que je suis étonné de ne pas avoir plus de jeunes dans la salle. Je vois que c'est la première guerre. J'aurais préféré avoir plus de gens dans la salle que de s'énerger. Ça, c'est ma première remarque. Je rebondis sur ce que disait la sœur à côté, par rapport à la laïcité. Nous, on remarque que la laïcité, c'est dans un sens pour l'instant. Par exemple, je donne quelques exemples. On a mis Manuel Valls, notre premier ministre, aller assister à la béatification de Jean-Paul II. Une personne à qui j'ai beaucoup de respect. On a vu aussi, on voit nos responsables politiques mourir chaque année au dîner du Christ, alors qu'on parle de laïcité. Donc nous, on a l'impression que la laïcité, que c'est un depuis le début de l'avènement de l'islam, depuis qu'on est devenu visible dans la société française, on parle de laïcité. Donc on a cette impression-là. Et concernant les symboles de la République, on a rappelé la fin, nous, nos jeunes, depuis la maternelle, on nous parle de l'égalité, fraternité, liberté. Une fois qu'on arrive à 15 ans, même pour avoir un stage, ce jeune-là, il est confronté à un problème par rapport à son copain de classe qui s'appelle Paul, aux yeux bleus, blancs, lui n'a pas ce problème-là. Donc, à partir de ce moment-là, il sent que, quelque part, on lui rapporte pas la vérité. Et ces jeunes-là, plus tard, ont des oreilles plus attentives à des gens qui vont dire, comme vous l'avez dit, qui vont dire, voilà, vous voyez, vous n'êtes pas chez vous, vous n'êtes pas des citoyens, on vous considère pas comme des citoyens, de toute façon, la première est là. Ils ont plus d'oreilles attentives à ces gens-là qu'à nous, les responsables qui leur disent, non, votre destin est ici, vous êtes né ici, vous allez grandir ici, vous allez peut-être mourir ici. Donc c'est ici que ça se passe. Mais malheureusement, on a, les musulmans, on a un travail de ce côté-là, de dire, non, c'est ici que ça se passe, mais nos responsables politiques, ils ont une responsabilité dans l'acceptation de qu'on est chez nous, on est les Français, et qu'il ne faut pas y avoir deux points de vue. Il ne faut pas nous dire, parce qu'il est devenu la maternelle de liberté, égalité, fraternité, arriver à 15 ans, maintenant, on se rend compte que tout ce qu'on nous avait expliqué, en fait, c'est pas du tout sur le terrain.
Donc, jazakallah,
il y a beaucoup de réponses à ça.
C'est pas une question. Mais j'ai l'impression que ça va être un peu de
Baraklaouf, merci pour cette intervention. Ce que le frère vient de dire, je l'ai cité tout à l'heure. Donc, lorsque j'ai dit qu'il y a parfois une injustice sociale et que c'est une autre forme de violence institutionnelle, comme j'ai dit. Donc, c'est exactement ce que j'ai dit. Mais bien entendu, il ne faut pas non plus tomber dans... Il faut se dire que, chez nous, en arabe, on dit le droit, ça s'arrache. On ne va pas t'offrir ton droit. La Constitution, il nous donne nos droits. Elle les exprime, sont écrits dans les textes. Mais dans la réalité des choses, il faut arracher ce droit-là. Il est dans les textes, mais il faut l'arracher dans la réalité. Donc, lorsque le jeune ne veut pas voter, c'est qu'il donne justement... c'est qu'ils vont dans le mauvais sens, justement. Il faut arracher ce droit-là. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'engagement citoyen, c'est important. Si on veut que demain, Manuel Valls ou autres visitent aussi les musulmans, il faut que les musulmans aussi représentent une force aussi électorale. Moi, je suis contre les lobbying. C'est pas parce que lobbying, ça, on peut le comprendre de deux manières. Il y a un lobbying pour faire valoir un droit qui n'est pas naturel, ou bien un droit qui n'est pas bon pour tout le monde, ou bien un lobbying pour faire valoir un droit qui est institutionnel, qui est étatique et qui est constitutionnel. Dans ce cas-là, bien entendu, il faut l'arracher. Et c'est ça maintenant le problème. Donc, au lieu que de rester sur une position victimaire, et c'est ça maintenant le problème de nos enfants, c'est qu'ils sont dans cette stratégie victimaire. Nous, on ne nous a pas fait ça, nous les musulmans, nous sommes ceci, et on va rester comme ça jusqu'à quand? On va rester comme ça jusqu'à quand? Il faut qu'on sorte de ce cercle vicieux. Notre droit, il faut qu'on l'arrache. Alors, on n'est pas contre que Manuel Valls ou autre visite les chrétiens, visite les juifs. Il n'y a pas de problème. Nous, au contraire, c'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande. Visiter tout le monde. Visiter tout le monde. Mais il faut aussi qu'on soit à la hauteur pour justement stimuler la curiosité de nos hommes politiques et de nos femmes politiques pour venir le voir. Mais après tout, ces hommes ou femmes politiques, c'est nous qui, c'est-à-dire, c'est nous qui décidons de leur choix. Nous décidons des choix de nos hommes et de femmes politiques. Donc, si on rejette ce droit-là, ben, on n'a qu'à accepter les conséquences, si j'ose dire. D'accord? Donc, et c'est pour cela que je dis que ces frustrations-là, nos enfants peuvent avoir des frustrations, je comprends. Mais il faut que nous jouions pour les éponger, ne pas les laisser se développer. Et c'est comme ça qu'il faut créer des espaces de dialogue, ramener... Nous, on a invité une trentaine de prêtres de toute l'agglomération ancienne, on les a invités à la mosquée. Et les enfants, pour qu'ils soient visibles devant les enfants, pour montrer aux enfants depuis leur jeune âge, on n'a pas de contradiction, d'affrontement avec les autres religions. Donc depuis son enfance, lorsqu'il va voir le prêtre dans sa mosquée, il va voir le rabbin dans sa mosquée, lorsque le jeune chrétien va voir l'imam à l'intérieur de sa mosquée qui est en train de faire un discours, On a fait un discours dans une église, au plein centre de Nancy. Et en nous jeûnions ce jour-là, c'était un jour de jeûne surérogatoire. Et l'heure de l'Mourab est arrivée, l'heure du coucher du soleil est arrivée, donc l'heure de la prière est arrivée. Je l'ai dit gentiment au prêtre, avant justement la réunion, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux déplacer l'heure de la réunion? C'était une table ronde, parce que voilà, nous devons faire la prière et nous devons rompre le jeûne. Il a dit, est-ce que ça vous gêne de le faire à l'intérieur de l'église? J'ai dit, ça ne nous gêne pas. Et au contraire, pour moi, c'est important de le faire symboliquement. Donc au moment de l'heure de la prière, il a dit, voilà, nos amis musulmans veulent faire leur prière, on leur a réservé une salle annexe et ils vont établir leur prière, on va leur donner 10 minutes pour rompre leur jeûne et revenir. Et on s'est tous levés, on est allé faire notre prière, on est sorti. Imagine un enfant qui voit ce geste-là, un enfant musulman qui voit ceci, ou un enfant chrétien qui voit cela. Comment voulez-vous que la haine trouve place dans son cœur contre le musulman ou que le musulman trouve une haine contre le chrétien? C'est impossible. Parce qu'il a vu son père, il a vu son imam qui est son référent, être à la même table avec le chrétien, avec le juif, il a vu, on lui a prêté une salle pour prier et revenir, il l'a vu le lendemain chez lui à la mosquée, donc il ne peut pas cultiver la haine. Et c'est pour cela que je dis, ce contact-là, ce dialogue-là est nécessaire, il est nécessaire. Soit on s'engage dans cette entreprise, soit on va le payer tous, musulmans ou pas musulmans. Et malheureusement, lorsque justement le terrorisme touche, ou lorsqu'il frappe, il frappe d'une manière aveugle. Il ne distingue pas entre le musulman et le non-musulman. Et vous avez vu les victimes, les pauvres victimes d'il y a quelques jours, parmi lesquelles il y avait plusieurs musulmans. Donc nous sommes des cibles aussi potentielles de ce qui arrive. Nous sommes des cibles potentielles de ces gens-là. Et c'est pour cela qu'il nous faut un vrai engagement. Et qu'on ne s'arrête pas au slogan, il faut descendre sur le terrain, multiplier les rencontres, aller voir les gens, provoquer des rencontres. Et je crois qu'il y a énormément à faire à ce niveau-là. Et on peut faire. Il faut seulement les bonnes volontés, la bonne formation, trouver le bon outillage pour transmettre, pour dialoguer, pour partager. Et nous avons, alhamdoulilah, une religion très riche au niveau des textes. Encore faut-il les comprendre, de trouver les gens qui nous les transmettent comme il le faut, qui nous expliquent comme il le faut, pour les utiliser comme un bon moyen de rapprochement avec nos autres compatriotes.
كان شكرا دكتور تسليكم جميعا والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياه إن شاء الله نسأل مزاميديا يكوتي الكونسي دي فرير سيك إن شاء الله مزامي دي أسوسيسون مزامي دي مويا إن شاء الله دي دوني بوك طن بوك بوز أنفون بوك لأبنير دي أنفون سي تريز أمبورتان إن شاء الله جي ديسكوتي يا فولنطان بك لبريتر كي بيان دي نو بارلي توتا لور. Donc, ce dialogue interreligieux, il est très important aussi. Mais les femmes aussi doivent s'investir dans des projets concernant l'avenir de leurs enfants. C'est très important. Mais alhamdoulilah, moi, ce que j'ai vu au niveau des femmes que je connais dans les associations, alhamdoulilah, ils donnent leur temps plus que les hommes. Ils sont là, ils participent, ils préparent comme ici. La plus grande participation des femmes, c'est dans cette salle, c'est eux qui ont préparé beaucoup de choses. Mais Alhamdoulilah, il faut qu'on continue. Chacun doit connaître sa responsabilité. Et c'est à partir de là, Inch'Allah, qu'on va réussir Inch'Allah ensemble. Inch'Allah, nous offrirons à Yacoum. Subhanallah, nous avons dit à Allah, c'est bon. Salam alaikum, nous savons, nous savons. Donc, Inch'Allah, il y a eu une réunion d'intervention. Juste maintenant, après, à 19h. Au centre culturel et culturel de Panissa. Inch'Allah, vous assistez, Inch'Allah. Barakallahu fikoum, choukran. Salam alaikum.